Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme en français de la radio SBS. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble, une heure en français. On commence avec les dernières actualités. Il était considéré comme un souverain pontife moderne, réformateur, populaire, une figure sympathique, une simplicité apparente. Surnommé le pape des pauvres, protecteur des vulnérables et de l'environnement, François s'est éteint le lundi de Pâques à l'âge de 88 ans. Nouvelle bourde aux États-Unis où le chef du Pentagone a encore fait fuiter des données secret défense. Les démocrates crient au cauchemar, la Maison-Blanche apporte son entier soutien. En Australie, le vote par anticipation débute aujourd'hui alors que les candidats doivent encore préciser certains points de leur programme politique. Et enfin, un mot de cyclisme avec l'Amstel Gold Race. Au terme d'une course folle, c'est le Danois Mathias Kalmose qui remporte la course. Plus d'informations dans le journal des sports de Christophe Mallet. Rassemblements et prières à travers le monde, le pape François est mort. Le souverain pontife s'est éteint à l'âge de 88 ans, le jour du lundi de Pâques. Il a succombé à un AVC, indique le Vatican. Il était apparu sur la place Saint-Pierre à Rome la veille et avait pu prononcer quelques mots, le souffle court. Sur place, Daniel Vallot pour Radio France Internationale.
La prière a duré un peu moins d'une heure, une prière très simple en latin et en italien, dans l'insistance, beaucoup d'émotions, bien sûr, de la gravité dans les regards, dans les gestes et le souvenir d'un pape qui aura tenté jusqu'au bout de se rapprocher de ses fidèles. Écoutez le témoignage de Marie-Claude, une habitante de l'Île-Dieu en France. Elle a 83 ans et elle a pu voir ce dimanche le pape François pour ce qui restera donc sa toute dernière apparition publique.
Le pape, il est passé devant la barricade où j'étais. On a entendu quand il a souhaité les joyeuses fêtes de Pâques, mais on avait du mal forcément à comprendre ses paroles. Mais enfin, et puis ce matin, en sortant tout d'un coup, mon gendre qui dit « le pape est mort ». Alors ça nous a complètement... J'ai pleuré, les larmes sont venues malgré moi. De venir ici et puis se trouver, le voir hier comme on l'a vu, puis ce matin, on a du mal à s'en remettre, quoi.
Beaucoup de tristesse pour ce pape François que Marie-Claude aimait profondément, nous a-t-elle dit, parce que c'était un pape proche de ses fidèles, proche des pauvres et du peuple. Ce sont des mots qui reviennent beaucoup dans la bouche des personnes que j'ai pu interroger ici sur la place Saint-Pierre. Le pape François laisse le souvenir d'un souverain pontife populaire, très respecté, et qui aura tenté, m'a dit l'un de ses fidèles, de réformer l'Église catholique et de la rendre plus ouverte, plus attentive aux autres.
Parmi les hommages, celui du Premier ministre australien Anthony Albanese, car ici, 20% de la population est catholique, c'est un peu plus de 5 millions de personnes.
He was indeed the people's pope. He was tireless in advocating for the powerless, campaigning against poverty, for the rights of working people, and for protecting our natural environment. Pope Francis stayed true to his origins. As pontiff, he never rose above small acts of kindness and compassion. There was a gentleness about him, but it was a gentleness that contained such inner strength.
Voilà, c'était Anthony Albanese. De son côté, le leader de l'opposition, Peter Dutton, a présenté ses condoléances aux catholiques d'Australie et a affirmé que le pape François était un homme simple et frugal. Le pape François, qui était considéré comme un souverain pontife moderne, réformateur populaire, une figure sympathique, une simplicité apparente, il était surnommé le pape des pauvres. Il était également protecteur des vulnérables et de l'environnement, mais parfois il faisait tout de même trembler le clergé. Retour sur ses prises de position marquantes avec Anne Verdager pour RFI. Lampedusa est le premier déplacement du pape en juillet 2013, en pleine crise des migrants. Il parle de la mondialisation de l'indifférence. Au fil des ans, le pape dénonce à de nombreuses reprises l'indifférence à l'égard de son prochain, notamment lorsqu'il revient sur place en 2023.
Il est triste et douloureux de voir des portes fermées. Les portes fermées à ceux qui sont étrangers, différents, immigrés, pauvres. S'il vous plaît, ouvrons les portes.
Quelques semaines plus tard, son premier voyage hors d'Italie sera pour les Journées mondiales de la jeunesse au Brésil. Dans l'avion qui le ramène de Rio, il prononce des mots jamais entendus dans la bouche d'un pape sur l'homosexualité.
Si une personne est gay et qu'elle cherche le Seigneur et qu'elle est de bonne volonté, qui suis-je pour la juger ?
En 2018, le souverain pontife se rend au Chili où il demande pardon après une enquête sur des abus sexuels commis sur place par le clergé.
Il est juste de demander pardon et de faire tous les efforts possibles pour soutenir les victimes, tout en nous efforçant de faire en sorte que de telles choses ne se reproduisent plus.
En 2021, le voyage en Irak marque les esprits. En pleine pandémie, le pape vient réconforter les chrétiens persécutés. À Mossoul, il prononce un discours teinté d'espoir.
Aujourd'hui, envers et contre tout, nous réaffirmons notre conviction que la fraternité est plus forte que le fratricide, que l'espérance est plus forte que la mort et que la paix est plus forte que la guerre.
Le pape qui n'aura jamais pu réaliser son dernier grand voyage, celui de son retour au pays natal, l'Argentine, qu'il a toujours remis à plus tard.
Alors, quelle suite maintenant après la mort du pape? Quand auront lieu ces funérailles? Qui pour le remplacer et aussi qui pour gérer les affaires courantes d'ici là? Les prochains jours vont s'inscrire dans un protocole très précis. Éric Sénang, correspondant Vatican pour RFI.
Sitôt le décès d'un pape, c'est un rituel bien huilé qui s'enclenche au Vatican. Le camerlingue, un haut dignitaire de la curie, prend en charge les affaires courantes. C'est lui qui a été chargé de constater le décès du pape. La cloche du Capitole, la mairie de Rome, sonne le glas et ouvre une période de 9 jours de deuil au Vatican, le temps de préparer les funérailles du souverain pontife. Pendant le temps de la vacance du siège apostolique, le gouvernement de l'Église est placé sous l'autorité du Collège des cardinaux, chargé de préparer les obsèques du pape défunt ainsi que le conclave qui doit élire un nouveau successeur de Pierre. Le doyen du Collège cardinalis a pour charge de convoquer les cardinaux du monde entier à Rome en vue du conclave, qui se tient à huis clos et à bulletin secret dans la chapelle Sixtine. Et durant cette période de transition, les cardinaux réunis en congrégation ne peuvent prendre aucune décision dont la validité dépasserait la période de la vacance, preuve que le pape est bien le souverain de l'Église catholique. Selon la constitution du Saint-Siège, le conclave doit par ailleurs se dérouler entre 15 et 20 jours après le décès du pontife. Seuls les cardinaux âgés de moins de 80 ans pourront élire un successeur au pape François.
On le disait en titre, aux États-Unis, le chef du Pentagone a encore fait fuiter des informations secret défense. C'était le mois dernier. C'est dans une boucle Signal que Pete Hegseth a donné des détails sur une frappe américaine à venir au Yémen. L'opposition démocrate crie au cauchemar pour la sécurité nationale. Karine Auton, RFI.
Pete Hegseth a survécu au premier Signalgate et semble protégé à nouveau, alors qu'hier, il a été avancé par plusieurs médias que l'ancien présentateur de la chaîne Fox News, reconverti en chef du Pentagone, aurait partagé des détails, non pas seulement à un journaliste par erreur, mais à certains de ses proches dans un groupe Signal à part. Son épouse, elle-même ex-journaliste de Fox, son frère, son avocat et une dizaine de personnes étaient averties en temps réel des frappes sur les Houthis au Yémen. Cela devrait alourdir les soupçons contre lui dans l'enquête interne menée au Pentagone en ce moment, d'autant qu'il a aussi été révélé qu'il avait emmené son épouse dans des réunions militaires à l'OTAN sans que personne ne sache qui elle était. Enfin, l'ancien porte-parole du Pentagone qui a démissionné la semaine dernière a publié hier un article dans Politico Vitriol où il décrit un mois de chaos total au sein du ministère de la Défense et des mises à pied de cadres supérieurs. Il a directement appelé Donald Trump à se séparer de Pete Hegseth.
Pour l'heure, la Maison-Blanche soutient fermement le secrétaire à la Défense et ne lui cherche pas de remplaçant. Pour Donald Trump, Pete Hegseth fait un travail, je cite, « formidable ». États-Unis toujours et Harvard qui intente une action en justice contre l'administration Trump après le gel de son financement. L'université allègue que les actions prises à son encontre sont arbitraires, illégales et qu'elles violent le droit à la liberté d'expression garantie par son premier amendement. La plainte vise plusieurs responsables et agences fédérales, notamment les ministres de la Santé, de l'Énergie et de l'Éducation. Pour l'heure, pas de commentaires de la part de la Maison-Blanche.
Retour en Australie où les élections fédérales se tiendront dans 11 jours, le 3 mai prochain. Mais les premiers bulletins sont déposés dès aujourd'hui puisque ce mardi marque le premier jour du vote par anticipation. Aux dernières élections fédérales, près de 6 millions d'Australiens se sont rendus aux urnes pour voter et près de 2 millions ont voté par correspondance. Un vote anticipé qui prend plusieurs parties de cours puisque certains doivent encore faire des annonces. C'est le cas de la coalition par exemple qui doit préciser l'allocation de ses dépenses de défense et dire quels emplois de la fonction publique elle menace puisqu'elle vise à réduire la masse salariale de 40 000 personnes. L'occasion est trop belle pour les travaillistes qui l'accusent de faire des coupes secrètes et de focaliser la campagne sur d'autres sujets moins clivants comme Medicare par exemple. Sur un autre thème de campagne, Peter Dutton a promis que la coalition ne réduirait pas le nombre annuel de visas parentaux, mettant fin aux interrogations quant à sa politique migratoire.
And I've been clear about this when I was in the portfolio before. It's an important part of the migration program, and we're not going to reduce those.
Peter Dutton qui d'ailleurs précise que la mort du pape François n'est pas une occasion pour faire de la réelle politique. Alors que la plupart des chefs de parti ont annulé leur tournée de campagne aujourd'hui pour assister à des offices religieux, eh bien le chef de l'opposition assure que le débat des chefs de file prévu ce soir, le troisième de la campagne, sera maintenu.
I don't think there's any need for over-the-top politics today. I think we can respectfully put our positions. Polling obviously opens today. There's a leaders debate tonight. I understand the Prime Minister is happy to proceed with that. So I think it's a respectful day and we can state our policies, but I don't think it needs to be an over-the-top day. Thanks, mate.
Un point sur la météo de cet après-midi avec des températures qui baissent en cette fin avril. Adélaïde, 21 degrés, Melbourne 19, Hobart 18. Il fait 22 degrés à Canberra, 24 à Sydney. La chaleur se maintient plus au nord, 27 à Brisbane, 30 à Cairns, 34 à Darwin. Comptez 30 degrés à Perth. Le décès du pape François à l'âge de 88 ans, le souverain pontife, vu comme le modernisateur de l'Église catholique, a succombé à un AVC, annonce le Vatican. Hier, c'était le lundi de Pâques, les hommages et les offices religieux se succèdent. Encore une bourde au Pentagone où le chef de la sécurité a envoyé sur signal à sa famille des données secret défense. La Maison-Blanche lui accorde son soutien, mais les démocrates crient au cauchemar. Premier jour des élections anticipées en Australie, le vote par correspondance s'ouvre aujourd'hui alors que les citoyens sont appelés aux urnes dans 11 jours pour élire un nouveau Premier ministre. Voilà pour le rappel des titres de ce mardi 22 avril. Messieurs, dames, restez sur SBS French. Tout de suite, le journal des sports. Il est signé Christophe Mallet.
Journal des sports, et on débute avec du cyclisme. C'était un grand week-end pour le vélo sur SBS avec l'Amstel Gold Race, une des classiques importantes du calendrier, à la fois masculin et féminin. Une très très belle course chez les femmes et la victoire de Misha Bredenvold. Victoire surprise pour la néerlandaise.
I have to say I was maybe too scared to attack and I thought I gamble, I do all or nothing and I gamble my sprint, maybe I can follow them this time because they had to work and I didn't. And then Ellen went, and I thought they would jump. They didn't. And then I thought, then it's up to me. And then Danny behind me in the car, he was really saying, now it's all or nothing, full gas together. And I know the Skouberg, I hated the Skouberg, but I thought I'd just keep going and don't look at the powers. Just go. And on top, I was alone. And then I thought, now we go. I mean, this is Amstel, you know, it's such a big race and it's in Holland. It's a dream, honestly.
Misha Bredevold qui a donc battu les grandes favorites pour remporter une course chez elle, l'Amstel Gold Race chez les hommes. Victoire surprise également de Mathias Kelmose. Il aura tout simplement battu au sprint, tenez-vous bien, Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. On écoute Mathias Kelmose plutôt dans l'émotion.
It means so much. I had so much bad luck this season already, and you know it's super hard mentally. I lost my granddad a bit more than a month ago, and I really want to give him a win. And yeah, so this is for him.
Mathias Skelmose, donc victorieux, vraiment grande surprise sur cette victoire puisqu'il était plus ou moins cuit à quelques kilomètres de l'arrivée. Et au final, au sprint, il a réussi à battre les deux meilleurs mondiaux à l'heure actuelle. Remco, on va y revenir dans quelques instants, mais on écoute aussi Wout van Aert qui finit une nouvelle fois quatrième au pied du podium pour le Belge. On l'écoute.
Une course très dure. Le rythme d'équipe UAE, c'était incroyable. Toutes les journées, c'était toujours dur juste de suivre et positionner dans le peloton. Donc, il y a le moment que la course a explosé, c'était déjà un demi-peloton. Après, c'est quand même un peu dommage qu'on a manqué l'attaque de Remco, car je pense que c'était possible d'être là. Et oui, c'est dur de voir qu'il fait quand même la course pour la victoire. C'est sûr qu'il manque la victoire, c'est juste ça. Mais le niveau que j'ai montré, c'était bon. Et dans toutes les courses, quelques autres étaient mieux. Donc oui, c'est comme ça et je dois accepter et je dois être fier et heureux avec les résultats que j'ai fait.
Wout van Aert. Donc, je vous disais, Remco Evenepoel, on va en parler puisqu'il finit troisième de cette Flèche Wallonne, mais c'était son retour quelques jours avant sur la Flèche Brabançonne. Un retour après une énorme chute en décembre dernier avec une vraie possibilité que Remco aurait pu finir sa carrière sur cette chute. Eh bien, il est là, Remco Evenepoel. Première course sur la Flèche Brabançonne et il gagne cette course, on l'écoute.
Je pense que je viens de répondre beaucoup de questions de ma part et des gens aussi. Finir cette course avec une victoire et quand même avoir dominé la course ensemble avec Wout, ça fait quand même du bien. C'est juste, ça a donné beaucoup de réponses. Donc je suis hyper content, fier et de pouvoir gagner de Wout en sprint. C'est quelque chose de nouveau quand même, je pense que j'ai jamais battu un coureur si vite, donc ça veut dire que je peux avoir confiance pour les classiques. J'ai quand même un bon sprint pour après une course assez dure. Je voulais attendre le deuxième tour, donc avec c'est quoi 38-35 km de l'arrivée, on voulait faire quelque chose là, mais Visma ils ont fait une attaque assez sévère sur Moskva Strat et puis j'étais là, je voyais que le groupe avait explosé, donc je me suis dit il faut y aller sur le All State, c'est quelque chose qui me va mieux que le Moskva Strat, donc j'y suis allé, et puis Wout il a mis un contre, et puis on était là à deux, et puis à trois, donc je pense que ça a bien marché, et puis on avait 45 secondes, 50 secondes, 30 secondes, puis à nouveau 45 secondes quand j'ai mis l'attaque sur Air Strat, et puis c'était une belle course et une belle ouverture des jambes. Je lui ai dit qu'il était le plus vite, mais je pense que puis à la fin c'était pas vrai, mais ouais, je pense que Wout il a beaucoup d'expérience dans les sprints à deux. Et puis ouais, je savais qu'il y avait encore un kilomètre à grimper, donc j'ai continué à pousser parce que je voulais pas qu'ils reviennent de derrière parce qu'ils ont quand même repris 20 secondes je pense sur la dernière bosse. Mais donc on a vu que c'était la bonne tactique et puis j'ai fait un sprint de 20, de 30 mètres. Donc ouais, c'est bien.
Remco Evenepoel, donc long entretien à la fin, à l'arrivée donc de cette Flèche Brabançonne qu'il a brillamment gagnée. Les prochaines courses de cyclisme sur SBS, c'est demain, mercredi, avec la Flèche Wallonne. Et dimanche, vous aurez un très beau Liège-Bastogne-Liège. On passe à la Formule 1 maintenant et victoire, troisième victoire de l'année pour Oscar Piastri. Il devient en même temps leader du championnat des pilotes. Un Australien en tête de son championnat, c'était pas arrivé depuis Mark Webber et 2010. On écoute Oscar Piastri.
I mean, I'm happy to be leading the championship, yes, but I'm more proud of the reasons why we're leading the championship. I think it's been a great start to the season. You know, I think Melbourne, obviously the result wasn't exactly what I wanted, but I think even taking that out of the equation, every weekend has been more or less what I've wanted it to look like. And, you know, I think that's why I'm leading the championship at the moment. I'm not that bothered, yeah. Because I want to be leading it in 19 races time, not now, but I'm proud of the work that we've been doing and proud of the results we've been achieving to put ourselves in that position.
C'était donc Oscar Piastri, leader du championnat du monde de Formule 1. Allez, une page de football. Tout d'abord, pour parler du championnat français, la Ligue 1, les matchs de cette semaine. Rennes bat Nantes sur le score de 2-1. Le Paris Saint-Germain bat Le Havre sur le score de 2-1 également. Match nul entre Monaco et Strasbourg 0-0. Montpellier atomisé par Marseille dans le stade Vélodrome sur le score de 5-1. Le Lille Olympique, le LOSC qui bat Auxerre sur le score score de 3-1. Lens qui va battre Brest en Bretagne sur le score de 3-1 également. Reims bat Toulouse 1-0. Nice bat Angers sur le score de 1-0. Et Saint-Etienne qui bat Lyon dans le derby 2-1 pour Saint-Etienne. Lyon, on en revient d'ailleurs dans quelques instants. Mais au classement de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain, on le sait, est déjà champion avec 77 points. Marseille est deuxième, 55 points. Monaco est troisième. Lille est quatrième. Nice est cinquième. Lyon est sixième. En bas de classement, Le Havre est 16e, Saint-Etienne est 17e et Montpellier est donc lanterne rouge et 18e de ce classement. Alors je vous disais, Lyon, on revient sur le club, puisqu'ils ont eu une défaite incroyable contre Manchester United en Coupe européenne, une défaite dont les Lyonnais se rappelleront. Antoine Grenier.
L'OL qui pensait pourtant avoir fait le plus dur en menant 4-2 en prolongation à Old Trafford face à Manchester United, mais tout s'est effondré en moins de 10 minutes avec des mancuniens, buteurs par 3 fois, victoire 5-4 des Red Devils au terme d'une soirée de folie qui risque de hanter longtemps les Gaunes, à l'image de Corentin Tolisso, expulsé avant la fin du temps réglementaire et qui a assisté, incrédule, à ce dénouement cruel pour les siens.
Bah, 4-2 et en restant 10 minutes, je pense qu'à un moment donné, on s'est peut-être dit que c'était fait, mais dans le football, rien n'est jamais fait. On l'a encore vu ce soir et après, on prend ces 3 buts coup sur coup. Je vous mens pas que c'est compliqué et que là, ça fait mal à la tête. C'est l'un de mes pires matchs, oui, bien sûr, avec ce carton rouge, avec cette élimination. Donc c'est compliqué. Franchement, c'est très très dur. Je pense qu'on méritait mieux. Maintenant, il va falloir relever la tête. Il va falloir digérer tout ça.
C'était Corentin Tolisso. Donc après cette défaite en Coupe européenne pour Lyon. C'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
C'était Daniel Balavoine avec son titre « Dieu que l'amour est triste ». Allez, on en parlait dans le journal. Les élections fédérales ont lieu dans 11 jours, le 3 mai. Aujourd'hui s'ouvre le vote par correspondance, l'occasion de se demander pourquoi les publicités politiques ne sont-elles pas soumises aux mêmes droits que les publicités classiques et comment elles peuvent, en toute légalité, contenir des allégations trompeuses ou mensongères. Eh bien, on répond à ces questions juste après une très courte page de publicité.
Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
SBS acknowledges the traditional custodians of country and their connections and continuous care for the skies, lands and waterways across Australia.
Le Premier ministre Anthony Albanese a convoqué les élections fédérales pour le 3 mai prochain. La campagne officielle a commencé et durant ces 5 semaines jusqu'au 3 mai donc, les partis et les lobbies politiques partageront toutes sortes de publicités. On pourrait se fier à ce qu'ils disent alors, n'est-ce pas ? Eh bien, pas tout à fait. Dans cet épisode, nous nous interrogeons sur ce que l'on peut se permettre en matière de publicité politique en Australie. Durant la campagne électorale de 2022, une image de David Pocock, alors candidat, avait largement circulé. On le voyait déchirer son badge pour révéler le logo officiel du Parti des Verts. Mais le sénateur indépendant de l'ACT, les territoires de la capitale australienne, n'a jamais été associé au Parti des Verts.
Initially, I sort of laughed at it, but then it wasn't long for the calls to start coming in saying that I betrayed people.
Sous cette image modifiée numériquement de lui, on pouvait lire les petits caractères autorisés par Advance Australia, un groupe de pression politique conservateur.
It's a serious thing to live in a country where there are basically no rules when it comes to telling the truth in campaign ads.
David Pocock avait ensuite déposé une plainte officielle auprès de la Commission électorale australienne qui avait répondu que les lois sur la publicité politique n'avaient pas été enfreintes. Un mois plus tard, volte-face de la Commission qui avait décidé que les panneaux étaient trompeurs et ne devaient plus être affichés.
If you are doing political campaigning, you should be held to some sort of standard when it comes to telling the truth and not being allowed to just have blatant sort of mis or disinformation.
Advance Australia, n'étant pas d'accord avec les conclusions, avait tout de même accepté de ne pas afficher les panneaux jusqu'à présent. Car à l'approche des élections et face à une lacune dans la législation sur la publicité politique, ils ont diffusé de nouvelles publicités mettant en vedette le candidat indépendant Alex Dyson.
There's been images of my head photoshopped onto another person's body to make it look like I'm running for a party that I've never had anything to do with.
Alex Dyson se présente pour représenter la circonscription de Wannon dans le sud-ouest de l'État du Victoria. En février dernier, les électeurs ont reçu plusieurs tracts trompeurs dans leur boîte aux lettres. L'un d'eux présentait une image retouchée numériquement d'Alex Dyson déchirant sa chemise pour révéler un t-shirt arborant le logo officiel du Parti des Verts. Ça vous rappelle quelque chose ?
There's been a, you know, a mixed reaction. Some people obviously pretty shocked who were able to see in the fine print that it's actually Advance Australia. Other people, you know, who maybe their eyesight's not as good or didn't read the fine print, were also shocked for a different reason because, it is quite confusing when these things hit your letterbox and there's, in at least one of the instances, there's no mention that it's a digitally altered image.
Après avoir interrogé la Commission électorale australienne, notamment après la décision de 2022, sur la manière dont cela a été autorisé ou non, eh bien Dyson a été surpris par la réponse « c'est parfaitement légal ». Dans une déclaration à SBS Examines, Advance Australia indique que la Commission électorale australienne lui a indiqué que les documents tels que le tract de Dyson ne contrevenaient pas à la loi électorale. Advance Australia maintient que le tract n'est pas trompeur, affirmant qu'elle ne suppose pas que les électeurs australiens sont si peu avertis qu'ils ne peuvent pas comprendre le propos satirique.
Lies are still allowed at the federal level as long as it's not in the way you cast the vote in terms of the ballot paper and so forth.
Ifoy Young, professeur agrégé à la faculté de droit de Monash, affirme que le cas de Dyson révèle une lacune dans les lois électorales. La commission électorale australienne a décidé que ces images modifiées de David Pocock ne devaient pas être diffusées comme elles l'ont été pendant la campagne électorale officielle, mais puisque les tracts de Dyson ont été distribués en février 2025, soit un mois avant la convocation des élections, alors Advance Australia a le droit de le faire. Tout était une question de timing.
Definitely very cheeky because they have been told that this is not allowed and they've just figured out a loophole in the rules and just worked around that basically.
L'article 329 de la loi électorale interdit la publication de documents susceptibles d'induire en erreur ou de tromper un électeur lors de son vote. Mais la commission électorale a interprété cette disposition comme une loi qui ne s'applique qu'après le déclenchement officiel des élections.
All ads have to be authorized according to the Electoral Act. It's when the false and misleading provision comes into play and the Australian Electoral Commission only enforces it in that short campaign period window.
La professeure Young affirme qu'il est dangereux que des mensonges et des informations trompeuses soient diffusés pendant la campagne électorale.
So the first is the damage to the individual, the candidate that's targeted. If there's an attack ad that says, oh, this person is an ex-murderer or something like that, that sways votes away from that person. So the first is the damage to the candidate's reputation. The second is the damage to the electoral process. If people switch their votes to somebody else, it skews their votes. And if that you aggregate all that, it might change the electoral outcome, leading to a different person being elected, if not for the lie.
La députée indépendante de Warringah, Zali Stegall, a également été la cible de publicité trompeuse et a fait pression pour que les lois sur la publicité politique soient concrètes.
We haven't got protections around our voting rights. Not to be scammed with lies.
Elle souhaite aligner la publicité politique sur la publicité grand public.
Whereby you can't have incomplete information, you can't have things taken out of context, you can't use deep fakes and AI to allege something that is not true, and you can't have misleading and deceptive information.
L'Australie méridionale et le territoire de la capitale australienne disposent toutes deux de lois sur la publicité politique.
I think the best model for truth in political advertising laws already exists in Australia. It's the model that's used in South Australia for their state and local elections. And it's a complaint system where the electoral commissioner can request a withdrawal or retraction. And then there are more serious consequences in the absence of compliance with that original request. So we actually have a working model for truth in political advertising laws. And indeed, 5 years ago, the ACT became the second jurisdiction to adopt them.
Bill Brown, directeur du programme Démocratie et Responsabilité de l'Australia Institute, affirme que malgré l'élan croissant en faveur de la vérité dans les lois sur la publicité politique, la charge incombera aux téléspectateurs pendant cette campagne électorale d'évaluer si les publicités qu'ils voient sont trompeuses ou non.
A healthy amount of skepticism is always a good idea when assessing advertising. And that probably goes double for political advertising.
Cet épisode a été produit par Olivia Diurio et présenté par Marianne Murat. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sbs.com.au/examines. Et si vous voyez des deepfakes ou du contenu douteux à l'approche des élections, envoyez un email à sbsexamines@sbs.com.au.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'aurore.
Zao Tsagazan sur les ondes de Radio SBS avec sa chanson La Symphonie des Éclairs. Il est 13h et bientôt 36 minutes sur SBS French, l'heure de se mettre l'eau à la bouche, l'heure de saliver. Audrey Bourget s'est entretenue avec Pierrick Boyer, propriétaire de Rêverie Café. Ensemble, ils parlent voyage et viennoiserie.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Je suis dans nos studios de Melbourne avec Pierrick Boyer, le chef propriétaire de Rêverie Café à Prahan et Doncaster, également chevalier du mérite agricole depuis l'année dernière. Bonjour Pierrick.
Bonjour.
Pierrick, vous revenez tout récemment de Paris et de Dubaï. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas?
Oui, alors c'était un trip, c'était très très court, 5 jours à Paris, bon déjà pour voir un petit peu la famille, faire le tour de quelques pâtisseries. J'ai eu la chance de passer 1 heure avec Monsieur Christophe Michalak, mon ancien chef, mon ancien patron, avant de venir en Australie. Et ça me remplit d'émotion parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé, j'ai un énorme respect et j'ai beaucoup appris. C'était formidable et j'ai eu la chance, il a pris presque 1 heure où j'ai pu goûter plusieurs choses en salé et sucré et on a pu parler de business et d'autres et de vie personnelle et c'était génial. Après, à Dubaï, j'ai eu la chance, bon, j'ai travaillé encore au Plaza Athénée avec Christophe Devoile qui est le chef pâtissier exécutif du Royal Atlantis et je lui ai demandé parce que son niveau de pâtisserie, de viennoiserie, de gâteau est ultra exceptionnel. C'est vraiment le top du top. Il a été élu pâtissier de l'année Goemio l'année dernière pour Dubaï et meilleur IT du monde. C'est exceptionnel. Et donc, je lui ai demandé si je pouvais passer, voir comment ses chefs faisaient la viennoiserie et tout. Et puis, il m'a dit, pas de souci, bien sûr, avec plaisir. Et je suis venu la journée de 6h à 4h30, 5h. Et on a vu leur viennoiserie, tout ça. C'était superbe.
C'est bien. Donc, même à votre niveau, vous continuez toujours de vouloir apprendre.
Tout à fait. J'ai 50 ans, 36 ans bientôt de métier en juin. Faut se remettre en question. Il faut apprendre. Il faut être curieux parce qu'on peut toujours progresser. Et souvent, en pâtisserie, ce n'est pas que la recette, mais la façon et comment on fait la recette. Tout est question de température et de timing et de tout ça.
Dans quelques mois, en novembre, vous allez être de retour en France. Cette fois-ci, je pense que c'est à Vannes pour la Coupe du Monde de viennoiserie. Qu'est-ce que c'est?
Tout à fait. Alors, c'est la première édition c'est la première Coupe du Monde de viennoiserie à Vannes, au Salon du Chocolat. Ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent faire une année à la Coupe du Monde de viennoiserie. Et une autre année à Coupe du Monde de pâtisserie. Ou faire ça en alternance avec d'autres grands événements comme ça, c'est une super initiative. Alors c'est un gros travail d'organisation. Je pense qu'ils ont déjà, ils ont tous les juges, ils ont toutes les choses là. Après, pour ma part, c'est s'entraîner tous les jours, s'améliorer, et c'est que des détails. Ce qu'il faut savoir, c'est que la viennoiserie, tu peux avoir la même recette, la même farine. Tu fais tout chez moi, ça va sortir superbe. Tu vas le faire dans une autre cuisine, fait par le même chef, le produit va être différent. Et ça, c'est très dur à faire comprendre aux gens qui ne comprennent pas l'alchimie, comment la viennoiserie, comment le pain fonctionne. Parce que tout est question de température. Bien sûr que les ingrédients, c'est très important. Mais tout est question de température, de timing, et de synergie. Et après, il y a le proving. Donc, en fait, on fait la pâte. Donc, il y a plusieurs méthodes de faire la pâte avec levain, sans levain, sourdough, pouliche, juste de la levure. Combien de temps elle va rester au frigo ou au freezer? En général, le même matin, on va laminer. Comment on lamine? Si on donne des tours simples, des tours doubles, des demi-tours. Et il y a plusieurs techniques de lamination. Après, le proving time, c'est un certain taux d'humidité, de température. On a même une recette pour notre egg wash, pour notre dorure. Parce que faut que ça soit ultra régulier. C'est pas juste, on mélange ci, on fait ça, et puis tout va bien, quoi. C'est très, très, très précis, quoi.
Vous allez être juge et coach à la fois?
Voilà. Ah, donc, je suis juge parce que je vais représenter l'Australie en coachant notre candidate australienne. Et je serai juge là-bas pendant la compétition. Alors, bien sûr, je ne peux pas juger le candidat australien. C'est normal. Et tous les autres pays, donc on sera 12 ou 14 pour l'instant. Donc, chaque pays jugeront les autres, sauf leur candidat respectif. Et il y a un autre panel aussi à la fin où c'est que des MOFs, meilleurs ouvriers de France, des grands chefs qui vont juger le goût, l'esthétique. C'est très, très pointu.
Et c'est plusieurs donc, épreuves durant cette coupe-là pour déterminer qui est le gagnant ou la gagnante?
Oui, donc ça va se passer sur 2 jours. Première journée, c'est faire les pâtes. Alors, il y a les croissants, pain au chocolat, croissants bicolores, et de la brioche et de la pâte feuilletée. Et une pièce de display.
Une grosse journée.
Oui. Donc, et souvent, on va avoir, je pense, au moins une bonne semaine. On va pouvoir travailler chaque jour et refaire les recettes. Donc là, après, il va falloir que j'organise, qu'on m'envoie de la farine de là-bas, du beurre ou le beurre local. Après, si je peux pas avoir le beurre de la compétition, je suis obligé de prendre le beurre que j'utilise. Et puis, faire nos essais dans une nouvelle cuisine. Donc après, va falloir faire... Et ce qui est intéressant avec le pain, la viennoiserie, des choses comme ça, que souvent, c'est un 2 or 3 day process. Ça veut dire qu'on fait la pâte un jour. Le deuxième jour, on la coupe. Sauf que là, on va avoir 2 jours. Donc le premier jour, on fait la pâte. On va faire toutes les pâtes. On va avoir les temps de repos au frigo, au freezer, à température ambiante. Et après, le jour d'après, de bonne heure, la lamination, donc faire le laminage, le folding, and proving and baking. Donc, on ne peut pas se louper. Si on fait, je ne vais pas dire un gros caca, mais si on le fait, il n'y a pas de... Tu vois, je veux dire, no safety net. On ne peut pas. Donc, ça va être vachement intéressant. Et après, je pense que tout le monde va être bien préparé et que ça se joue aux petits détails.
Vous parliez d'une concurrente australienne, je crois. Donc, qui est la concurrente australienne?
Oh, l'Australian candidate. La candidate. Donc, en fait, oui. C'est une chef qui bosse, qui travaille à Rêverie avec nous à Prahran. C'est celle qui fait la viennoiserie. C'est pas une concurrente, mais c'est plutôt une équipe, en fait, parce que, avec tout le training qu'on fait, qu'on va faire, tout est sur ses épaules. Parce que tous les petits détails, toutes les choses, il va falloir qu'elle refasse exactement apprendre et il va falloir qu'elle soit la meilleure. Moi, ça va être dur parce que la France, il a gagné la Coupe de France de viennoiserie. Il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont faire la compétition. Et vu que c'est la première fois qu'on l'a fait dans le monde, c'était basé sur le contact et sur les gens qui pouvaient le faire. Donc, oui, je connais l'organisateur, mais faut pas se louper. Je sais que la France, c'est une très bonne équipe. La Belgique, très bonne équipe, parce que je connais le coach depuis presque 30 ans. La Suisse aussi, très bonne. Les États-Unis. Donc, moi, je pense que si on est dans les 5 premiers, c'est bien. Si on est dans les 3 premiers, c'est exceptionnel. Parce qu'il va y avoir de la grosse compétition, quoi.
Et quel est le nom de cette candidate?
Nikita Pola. Elle travaille avec nous. Elle est indonésienne de Jakarta. Pour moi, c'était important d'avoir quelqu'un où on peut travailler tous les jours. C'est vraiment un travail de tous les jours pour s'améliorer et d'avoir un mindset de penser vraiment au détail et de, quand on voit les choses, essayer d'analyser à notre niveau. On n'a pas toutes les solutions, hein, et avancer et apprendre et faire mieux la prochaine fois. Après, ce qui est important, c'est que là, je suis en train de rechercher pour les sponsors, parce que bon, bah, faut l'aller-retour en France. Il y aura quelques nuits de chambre, donc deux allers-retours, deux nuits pour gérer au moins 8 jours. Et ce que j'aimerais en plus de ça, c'est de faire du training à KL, parce qu'il y a quelqu'un de très technique de pousser dedans. Même il fait de la viennoiserie à la main. Hein. Nous, on utilise des sheeters, enfin, des dough breakers, des laminoirs. Lui, il fait à la main et c'est un résultat exceptionnel. Donc, j'aimerais qu'on fasse un training avec lui, mais rien que le training de deux jours avec lui, nous deux et lui, c'est plus de 6 500 $, quoi. Bon, après, à KL, on y va en éco et tout ça, mais c'est un budget conséquent. Donc je recherche des compagnies pour nous aider à participer à ça. J'ai Wayne de Unox. Lui, c'est des fours qu'on utilise depuis très longtemps. Lui, il serait prêt à nous aider. Après, je suis en pourparler avec une compagnie de beurre, une compagnie de farine aussi.
On se reparlera sûrement en novembre, mais si on veut vous suivre ce qui se passe là-bas, est-ce que vous allez nous tenir au courant sur Instagram ou est-ce qu'on va pouvoir suivre ça en direct?
Tout à fait. Alors, mon social media le plus actif, c'est Pierrick Boyer sur Instagram, que bien sûr, je vais partager sur Rêverie Café Melb, le shop Instagram. Après, je vais en poster aussi sur LinkedIn, parce que je suis sur LinkedIn, j'ai beaucoup de c'est pas les followers, mais des links, ou je crois que j'ai 30 000 ou des connexions, 30 000 personnes. Bon, on connaît pas tout le monde, hein, sur Instagram aussi. Mais après, ça va être là où, après, j'ai mon Instagram perso qui est lié avec mon Facebook.
Pendant que vous êtes avec nous, Pierrick, si on peut parler brièvement aussi de Rêverie, est-ce qu'il y a des nouveautés ou des classiques qui sont toujours très populaires? Qu'est-ce que les gens aiment manger ou de quoi vous êtes particulièrement fier en ce moment chez Rêverie?
Ah bah, la viennoiserie en ce moment, elle est très bien. On peut mieux faire, ça c'est clair. C'est difficile parce que on peut pas avoir de moule. Avec la viennoiserie, il y a pas. Enfin, on peut avoir des tartes moules ou des bases ou pain brioché ou des brioches, enfin, des trucs comme ça. Mais c'est en général tout est fait à la main. La critique est plus facile. Après, on fait beaucoup de gâteaux. On fait le passion brownie, qui est un gâteau que je fais depuis plus de 20 ans, qui est un peu mon signature cake. Je faisais au petit gâteau et je l'ai continué, je l'ai amélioré, je l'ai changé, je l'ai amélioré. Après, on fait beaucoup de Neapolitan cheesecake, de tiramisu. Puis on fait des events aussi à Praran, on fait des events. Donc à cette heure, c'est très busy, donc c'est super. On fait le high tea aussi. On fait pas mal de high tea et ça, c'est un super rapport qualité-prix parce qu'on est, franchement, on est les moins chers sur Melbourne. On est à $60 par personne et nous, on fait tout sur place.
On viendra vous voir bientôt chez Rêverie et on garde l'œil aussi sur ce qui s'en vient en novembre avec la Coupe du monde de viennoiserie. Merci beaucoup, Pierrick, d'être venu nous visiter en studio.
Merci beaucoup. Petit portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais. Il t'imposait l'islam des tyrans. Cela où tu jamais lis le courant.
C'était un extrait de la chanson Manhattan Kaboul interprétée par Axel Red et Renaud. Une autre rencontre sur un autre sujet. À présent, on vous présente ou représente Aurélie Coste. Peut-être la connaissez-vous déjà. Elle est la créatrice du podcast You Are So French, une série sur les success stories à la française.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Eh bien, aujourd'hui, dans le programme en français, on va parler de podcasts et de français et de success stories à la française en Australie avec Aurélie Coste et son podcast You Are So French. Bonjour Aurélie.
Bonjour Christophe.
Parlez-nous un petit peu de ce que c'est. J'ai cru comprendre que c'est un podcast autour des success stories à la française avec des gens qu'on connaît dans la communauté.
Exactement. Donc, ce podcast raconte des histoires de français. Alors, le mot success, c'est un petit côté marketing et bien sûr, le succès, chacun le définit à sa manière. Donc, l'idée, c'est vraiment de raconter des belles histoires, des histoires de Français qui ont décidé de construire leur vie en Australie et de réaliser des choses qui leur tenaient à cœur. Ça peut être des rêves, ça peut être des projets plus concrets. Et l'idée, c'est vraiment d'inspirer et de montrer que c'est possible, qu'il y a des difficultés, que s'intégrer dans un nouveau pays et réaliser des choses, ça passe par plein d'étapes. Mais c'est vraiment pour partager des histoires qui laissent un état d'esprit positif à tous ceux qui écoutent.
D'accord. Comment vous avez venu l'idée, en fait, de tout ça? C'est un peu une expérience personnelle. C'est quoi la genèse de Your So French?
Alors, c'est un petit peu un mix de tout. Le médium, le podcast, c'est vraiment parce que j'adore les podcasts, j'en écoute beaucoup et j'avais envie aussi de créer le mien. Tout ça, ça a commencé pendant le Covid, où je pense qu'on avait tous un petit peu envie d'élargir nos horizons et aussi de trouver des choses pour nous occuper, les longues journées de Covid en lockdown. Donc, il y avait l'idée de ce podcast sans vraiment trop savoir ce dont j'avais envie de parler. Et puis, j'étais enceinte à ce moment-là, donc je pense qu'il y a eu une sorte d'énergie créative qui m'a complètement embarquée. Et je me suis dit, non, je vais le faire, je peux le faire, je vais faire ce podcast. Et l'idée même du podcast, effectivement, c'est vraiment basé sur mon histoire personnelle. Je me suis rendu compte que en étant française en Australie, et ça faisait déjà quelques années que j'habitais à Melbourne, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, que ce soit des Australiens, des Français ou des gens d'une autre nationalité, il y avait toujours beaucoup de curiosité. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça s'est passé pour nous, l'intégration en Australie? Et moi-même, dès que je rencontrais un Français ou une Française, j'avais envie de poser ces mêmes questions. Donc, je me suis dit qu'il y avait sûrement quelque chose à creuser et que ça intéresserait sûrement pas mal de personnes. En tous les cas, moi, ça m'intéresse toujours. Je suis toujours curieuse de connaître l'histoire des gens. Donc, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, je me suis formée un petit peu au podcast sur YouTube, encore une fois, dans les longues heures qu'on avait devant nous pendant ces journées de lockdown. Et je me suis lancée.
D'accord. Et vous avez fait combien d'épisodes? Il y a quelques personnalités marquantes, je pense, de la communauté. Je pense à il y a Dominique Portet, il y a Jean-François Pontieu, par exemple, de mémoire. Et c'est ça, globalement, à approcher aussi les gens de la communauté comme ça?
Alors, pour l'instant, j'ai fait une douzaine d'épisodes en tout. Et effectivement, avec des invités qui sont vraiment reconnus dans la communauté française pour tout ce qu'ils ont entrepris. Je dois dire que je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir effectivement des gens qui m'ont fait confiance et qui ont accepté de raconter leurs histoires. Même dès les tout débuts, j'ai été contactée par des gens alors que j'avais encore que à peine quelques épisodes. Je ressens vraiment une vraie volonté dans la communauté française et de la part de ces gens d'aider à d'autres Français qui se lancent dans leurs projets. L'idée de partager leurs histoires, voilà. L'idée aussi que moi j'ai avec ce podcast, que ça peut inspirer d'autres personnes. Jusqu'à maintenant, je dois dire que ça a été assez facile et vraiment j'en suis même étonnée, mais surtout très très reconnaissante de la générosité de ces personnes.
D'accord, vous avez des trucs spéciaux dans le pipeline? Vous travaillez sur plusieurs sujets à la fois, comment vous fonctionnez?
Oui, alors j'essaie d'avoir toujours quelques invités d'avance. Ça se fait vraiment très très simplement. Je contacte les gens, que ce soit sur Instagram, si je trouve leur email personnel, ou souvent aussi c'est par contact, une personne qui connaît une autre personne, voilà, qui me recommande. Donc j'essaie toujours d'avoir quelques invités d'avance. J'essaie vraiment d'avoir des profils différents. L'idée, c'est vraiment de raconter des histoires avec des thèmes les plus variés possibles pour essayer d'intéresser le plus de monde, avec toujours le fil rouge, bien sûr, être français et vivre en Australie. Donc oui, j'ai quelques invités d'avance déjà, mais je suis toujours très intéressée de recevoir des suggestions d'autres invités, ou même s'il y a des gens qui me contactent. Malheureusement, je n'ai pas les ressources pour interviewer tous les gens que j'aimerais interviewer là maintenant, mais en tous les cas, je garde une liste de noms. et j'espère j'espère pouvoir donner la parole à tous les gens qui auront envie de raconter leurs histoires.
Le podcast, on sait que c'est souvent un sentiment de liberté. C'est ce que vous expérimentez aussi. D'un seul coup, vous pouvez mettre votre voix sur quelque chose qui est écouté dans les oreilles des gens qui sont dans le tram ou dans le train ou en voiture.
J'avoue que j'ai pas trop réfléchi à ce qui se passe de l'autre côté. Quand les gens écoutent le podcast, bien sûr que je fais ce podcast en espérant qu'il soit écouté. Mais je pense que c'est pas tant pour moi. Je pense que c'est plus, encore une fois, par rapport à ces histoires que je trouve vraiment inspirantes et qui, je pense, doivent être partagées. Pour moi, c'est plus juste le plaisir de raconter des histoires. Je pense que j'aime vraiment ça. Et puis, c'est sûrement un plaisir égoïste. En fait, ces personnes que j'interview, la plupart, je les connaissais déjà avant ou en tous les cas... J'ai vraiment envie d'avoir accès à leurs histoires, à leurs conseils. Et donc, au lieu que ce soit juste un café, voilà, entre eux et moi, ben, je me suis dit que le faire en enregistrement et en faire un podcast, ça pourrait profiter à plus de personnes. Mais à la base, je dois dire que c'est juste un petit peu un plaisir égoïste.
Oh, souvent, c'est ça, hein. Ça, c'est pouvoir transférer un plaisir égoïste et le partager avec d'autres.
Exactement. Ben, j'espère que c'est un plaisir égoïste commun à plein de personnes.
Ouais, tout à fait. Vous nous rappelez les détails de votre podcast, si on peut vous écouter?
Oui, alors, principalement sur Spotify et Apple Podcast. Donc, c'est You Are So French, Success Stories à la française. Et je suis aussi sur Instagram.
Merci Aurélie.
Merci Christophe. Au revoir.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Le rappel des principaux titres de l'actualité, le décès du pape François à l'âge de 88 ans, le souverain pontife vu comme le modernisateur de l'Église catholique a succombé à un AVC, annonce le Vatican, hier jour du lundi de Pâques. Les hommages et les offices religieux se succèdent. Encore une bourde au Pentagone où le chef de la sécurité a envoyé sur signal à sa famille des données secret défense. La Maison Blanche lui accorde son soutien mais les démocrates crient au cauchemar. Premier jour des élections anticipées en Australie, le vote par correspondance s'ouvre aujourd'hui alors que les citoyens sont appelés aux urnes dans 11 jours pour élire un nouveau Premier ministre. Et enfin en cyclisme, victoire de Mathias Kalmoseux à l'Amstel Gold Race. Au terme d'une course folle, le Danois a devancé d'un rien le Slovène Tadej Pogacar et le Belge Remco Evenepoel au sprint. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet SBS French ainsi que sur les plateformes de podcast. Votre prochain rendez-vous avec l'information en français, c'est jeudi, même fréquence, même heure. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent mardi après-midi et je vous dis à bientôt. Au revoir, messieurs, dames.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.